7. Geek, Maxime Sima, Alexandra Tremblay, Richard Courchesne. C'est le retour de Courchesne. Bah, au moins, ils ont des beaux noms.
Bon, alors, ben merci, monsieur l'annonceur. On va parler d'un ouvrage intitulé « Grosse ». Et puis...
Combattre la grossophobie. Je trouve ça important de le mentionner aussi. Là,
exactement. L'auteur du livre, Édith Bernier, est en bout de ligne. Je te laisse nous la présenter.
Édith Bernier, bonjour.
Bonjour, Édith.
Bonjour.
Écoute, tu as écrit ce livre-là, mais c'est pas la première fois que tu parles du sujet. J'avais essayé de discuter avec toi il y a à peu près un an, justement, du sujet de la grossophobie. Malheureusement, tu avais une extinction de voix. Donc là, c'est une bonne raison de se reparler. Peut-être commencer par nous expliquer qu'est-ce que c'est la grossophobie pour ceux qui ne connaissent pas ça.
Ben, en fait, la version vraiment condensée, je dirais, de la définition de la grossophobie, c'est l'ensemble des discriminations et des comportements hostiles à l'égard des personnes grosses, obèses ou en surpoids. Donc ça, c'est la définition officielle du dictionnaire Robert. Et en théorie, par exemple, c'est ça. Mais en pratique, il y a beaucoup plus de nuances. Et c'est pour ça, en fait, que je trouvais ça important d'écrire un livre là-dessus, parce que c'est jamais tout noir ou tout blanc. Et comme toutes les formes là, de discrimination ou d'intimidation, c'est bon des fois d'avoir des guides, même si les guides sont pas toujours absolus, mais au moins d'avoir une petite idée d'où est-ce qu'on s'en va avec ça.
Édith, c'est un phénomène, je dirais, qui est relativement récent. Dans les années 80, 90, même au début des années 2000, on faisait beaucoup de blagues sur les gros, hein, sur Ginette Renault, sur Gaétan Barrette. On dirait là, que ça émerge, ce phénomène-là, depuis quelques années.
Bien, en fait, c'est que la grossophobie, ça existe depuis super, 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 super longtemps. C'est la dénonciation de la grossophobie qui est récente, je dirais. Donc oui, en effet, on a beaucoup ri des personnalités publiques qui étaient grosses ou des personnalités qui prenaient du poids. Et d'un autre côté, on a aussi beaucoup encensé les personnes qui perdaient du poids. Quand on voyait une personnalité à la télé ou même dans certains magazines et tout ça, regardez cette merveilleuse transformation. Puis c'était jamais une personne qui avait changé sa couleur de cheveux. Là. Souvent, c'était une personne qui avait perdu un poids quand même assez important. Et ça, c'est quelque chose que de plus en plus, en fait, il faut rappeler que ça peut envoyer des messages qui sont troublants chez les jeunes, chez les adultes aussi. Parce que si une personne est juste valorisée quand elle perd du poids, ça peut envoyer des messages vraiment... ça peut créer de la détresse, en fait, chez les personnes qui... soit qu'ils veulent en perdre et qu'ils n'y arrivent pas, et on s'entend que c'est une grande partie de la population, parce que 95% des régimes sur 5 ans donc ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que la personne qui a perdu du poids le reprend au moins au complet, sinon plus, au bout de 5 ans. Donc, faut revoir un peu, je pense, nos priorités en général et d'apprécier les gens, tout simplement, et d'enfoncer les gens ou de taquiner les gens pour d'autres choses que leur silhouette, tout simplement.
Là, j'entends déjà des gens se dire en ce moment dans leur auto, mais de normaliser les gros, c'est d'encourager les mauvaises habitudes de vie, c'est d'encourager la malbouffe, c'est d'encourager les problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on répond à ça?
Ben, de un, c'est pas vrai. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que dans la couverture, à l'arrière, en fait, du livre, on dit que lutter contre la grossophobie, ça ne signifie pas faire l'apologie de l'obésité. Parce que juste de respecter les gens. Moi, c'est ça qui est la valeur, je trouve, qui transpire le plus de la lutte à la grossophobie, c'est le respect des gens, le respect de la différence. On dit pas aux gens de ne pas avoir des habitudes de vie saine. On dit pas aux gens de pas bien manger, mais c'est parce que ça se peut qu'une personne qui a des super bonnes habitudes de vie et qui mange là comme le guide alimentaire le suggère et qu'une nutritionniste n'aurait rien à redire dessus et qui est active et tout ça. Et ça se peut qu'elle soit grosse pareil. J'ai juste à penser, par exemple, à imaginer les haltérophiles aux Olympiques. On s'entend, c'est des athlètes de haut niveau, c'est des gens qui mangent bien, c'est des gens qui sont actifs et tout. Pourtant, il y en a pas beaucoup qui sont petits. La plupart sont considérés en surpoids ou obèses. Un gars comme Laurent Duvernay-Tardif, d'ailleurs, il y a un IMC de 38, donc c'est à la limite de l'obésité, selon la charte. Et on s'entend que c'est un gars sportif et le gars étudie en médecine, et c'est ce qu'il fait. Donc, faut juste pas généraliser, en fait, comment on perçoit les personnes grosses. Et puis, même si une personne grosse n'avait pas un style de vie exemplaire, les personnes minces n'en ont pas toutes des styles de vie exemplaires non plus. Et c'est pas nécessairement la raison derrière le poids, parce qu'il y a un paquet de raisons qui expliquent le poids au-delà de la bouffe et des habitudes de vie.
Des fois, on a l'impression qu'il faut comme choisir nos mots, hein, tu sais, pour.
Ouais.
C'est quoi les termes qui sont acceptables pour les personnes qui font de l'embonpoint?
C'est une super bonne question. En fait, c'est que ça dépend vraiment des personnes. Moi, personnellement, des mots comme obèse, comme en bon point, je suis pas fâchée, là. Okay. Mais des mots comme obèse, en bon point, comme en surpoids, personnellement, moi, ça m'achale. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise avec ça qu'avec gros. Moi, personnellement, j'aime mieux le terme gros ou grosse. Mais utilisé de façon, qu'on appelle humanisante. C'est-à-dire, au lieu de dire une grosse ou un gros, je vais dire une personne grosse, un homme gros. Ou une femme grosse. Okay. Un peu sur le même principe qu'on parle, par exemple, des personnes qui vivent avec un handicap. T'sais, ils demandent qu'on ne les appelle pas un handicapé, mais qu'on dise plutôt une personne handicapée ou une personne en fauteuil roulant ou une personne malvoyante. Donc, je pense que on a eu beaucoup de questions qui ont été soulevées par rapport à comment on appelle les gens, que ce soit par rapport aux personnes qui vivent avec un genre fluide, par exemple, les personnes qu'on appelle non-binaires. Et on les encourage à dire, bon, ben moi, le pronom que je préfère, c'est ça. Ben moi, je pense que ça se pose comme question quand on a une personne grosse devant soi. Est-ce qu'il y a un terme, si on parle de ton corps, parce que de un, on s'entend que ça peut facilement devenir un non-sujet, le corps d'une personne, c'est quoi le mot avec lequel toi, t'es confortable? Parce que obèse, ça peut être très pathologisant, obèse en surpoids, en bon point, parce que ça vient de la science, parce que c'est des termes, en fait, qui évoquent l'IMC et qui évoquent que le corps gros, c'est un problème. Et le corps gros n'est pas nécessairement toujours un problème en question de santé. Et même s'il l'est, on ne devrait pas mettre autant d'emphase négative, je pense, sur ça.
OK. Puis nous autres, les gars, par exemple, des fois, on dit « Hey, le gros! » Tu sais, des fois, on se parle de même, là. Ça, c'est correct. Tu sais, comme toujours, j'ai un collègue qui s'appelle Marc Duquesne. Hey, le gros, tu sais, mais c'est pas méchant, mais on devrait-tu éviter de dire ça?
C'est vraiment du cas par cas aussi, là. Moi, je suis pas là pour dire aux gens, voici comment parler. Tu sais, je suis pas la police du langage grossophobe. Je pense que, si c'est entre guillemets, entre personnes consentantes, tu sais, c'est comme une personne qu'on appellerait la grande, là. Tu sais, je veux dire, même si elle mesure 4 pieds 11, ça se peut qu'on l'appelle la grande, là. Moi, je me suis déjà fait appeler la grosse par des gens qui étaient mes amis, qui appréciaient, puis c'est correct. Mais tu sais, juste des petites affaires qu'on peut commencer à faire des nuances. Par exemple, je voyais quelqu'un qui décrivait quelqu'un de façon négative, qui disait, mettons, c'est une grosse épaisse. Ben, on peut-tu dire c'est une mauseuse épaisse ou c'est une épaisse? Parce que, d'associer gros à quelque chose de négatif, ça aide pas à l'image des gros, mettons.
Est-ce qu'il existe le même genre de problème, mais de l'autre côté du spectre, c'est-à-dire des gens qui sont très minces? Je sais qu'il y en a qui se font taquiner à propos de ça, mais est-ce qu'il existe vraiment un équivalent à ceux qui sont plus gros?
Ben, en fait, je dis oui, les personnes grosses se font taquiner, je dirais, et même achaler, et même intimider, et discriminer même. La grande différence, je pense, entre le skinny shaming, donc l'humiliation basée sur une minceur qui peut être extrême, ou le fat shaming, qui est l'intimidation basée sur le fait d'être gros ou grosse, c'est que la personne qui est très mince, elle va quand même pouvoir trouver des vêtements dans la plupart des boutiques. Si elle prend l'avion, elle va fitter dans le siège. Au quotidien, oui, il y a des gens qui vont la taquiner, mais elle peut quand même fonctionner en société avec probablement beaucoup moins de petits picossages et de petits tics qu'une personne grosse. La personne grosse va avoir deux magasins dans toute sa ville, si elle est chanceuse, pour pouvoir magasiner. Grosse chance qu'elle soit obligée de tout faire sur Internet. Les bancs d'autobus, d'avion, les chaises de bureau, il n'y a rien qui va être fait pour son corps. Donc, elle a des rappels encore plus constants que la société est comme pas adaptée à cette nouvelle réalité-là. Par contre, c'est important de reconnaître que le skinny shaming existe, mais je pense que les mettre dans la même catégorie, c'est pas rendre service ni à un ni à l'autre.
Personnellement, en tant que fille qui a des courbes, je trouve ça extrêmement difficile de magasiner puis de me trouver du linge. J'ai l'impression que l'industrie du vêtement, l'industrie de la mode, a joué avec ses grandeurs, a joué avec ses tailles, puis que c'est rendu pratiquement impossible pour moi de même me trouver une paire de pantalons. Je suis folle ou il y a eu des changements?
Ça va être ma perception personnelle, c'est oui, je pense que les grandeurs ont changé. Et je pense que d'une marque à l'autre aussi, avant, il y avait peut-être un consensus plus proche. C'est, mettons, si on habillait une marque X dans une marque, une grandeur X dans une marque, sais, on peut peut-être penser fitter dans la grandeur équivalente dans une autre marque. Maintenant, c'est pas rare des fois qu'il va y avoir 3-4 grandeurs de différence dans les jeans, par exemple, d'une compagnie à l'autre ou d'une marque à l'autre. Donc, mon cher Arthur, je pense pas que tu sois folle. J'ai pas fait de grandes études scientifiques sur la question, mais ce que je peux dire, c'est qu'en général, l'industrie du vêtement taille plus pour les femmes est vraiment en péril. On sait que Addition L vient de fermer. Ouais. Pennington, écoutez, là, moi, je suis à Montréal et j'ai de la misère à trouver des vêtements taille plus. Je n'ose pas imaginer pour les personnes qui vivent en région, par exemple. Je suis une fille qui est originaire de Matane. Pour moi, à moins d'aller à Rimouski, c'était pas une option. Donc, les gens du Saguenay, c'est clairement quelque chose à quoi ils vont être confrontés. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage qu'on soit relayé au fond des boutiques, qu'on soit relayé à l'Internet, que les gens veulent pas nous voir, on dirait, des fois, dans leur magasin.
Puis j'ai l'impression aussi qu'il y a comme des styles qu'on n'a pas le droit de porter quand on est plus grosse. C'est comme si, puis même quand tu magasines là, dans les boutiques qui sont dites taille plus, des fois j'ai l'impression qu'on se donne moins dans la mode taille plus.
Oui, ça aussi, c'est comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas fait d'études scientifiques là-dessus, mais je partage vraiment ton impression. C'est vrai que, bon, ça a évolué quand même un peu depuis les hausses de sofa des années 90, mais les belles hausses de sofa fleuries. Mais
les abris tempo aussi.
Voilà, ça c'est la version hiver. Ouais. Donc, mais il y a eu beaucoup d'évolution quand même, mais je pense qu'on est encore vraiment, vraiment, vraiment loin des efforts qu'on met dans la mode qui à la... des tailles dites standards, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau des motifs, que ce soit au niveau des coupes. Et je pense aussi qu'il y a une énorme pression sur les femmes, mais aussi de plus en plus chez les hommes. Hein. Faut pas l'oublier. Les hommes, ils ont de la pression d'être cotes, d'être musclés, de pas être mince, mais de pas être gros non plus. Les femmes, il faut qu'elles soient minces, il faut qu'elles soient fermes. Fait que faut pas qu'elles soient trop musclées, mais il faut qu'elles soient un peu fermes. Donc, on a la pression de toujours s'habiller à notre avantage. Mais en même temps, c'est quoi notre avantage? Il y a des femmes qui aiment ça porter ce qu'on appelle des crop tops, des hauts courts, puis qui sont à l'aise de montrer leur ventre. On s'entend, tout le monde a déjà vu ça, un bedon de quelqu'un. Il faudrait s'arrêter là, de juger les gens. Ouais, ça la met pas en valeur, ou ouais, ça la grossit, ou ça le grossit, ce vêtement-là. Je pense que à nous-mêmes et aux autres, on se rendrait tellement un grand service s'il y avait une espèce de vivre et laisser vivre sur les vêtements, surtout pour les femmes taille plus qui ont un choix tellement limité, mais aussi chez les gars.
Difficile d'atteindre la perfection en ce bas monde. Hein? On est soit trop gros, trop mince.
Passé.
Ah, Seigneur, c'est compliqué.
On s'en sort pas, mais faut essayer d'apprécier tout le monde. Je pense que c'est là vraiment dans l'appréciation, dans la reconnaissance. On ne dit pas de ne pas voir la différence. Faut juste apprendre à vivre avec, tout simplement.
Exactement. Et c'est vraiment une entrevue très, très intéressante. Le livre doit sûrement l'être tout autant. Il est disponible depuis hier. Grosse et puis connaître et combattre la grossophie. La grossophobie publiée aux éditions du Très Carré. Édith Bernier, merci beaucoup. C'était très intéressant.
Merci beaucoup de la belle invitation.
Bye-bye, à la prochaine. Édith Bernier, donc, est l'auteur de ce livre disponible depuis hier.